Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que certains d'entre vous profitent de quelques jours de vacances et de repos en cette fin d'année. Pour les plus jeunes d'entre nous, ce sont les vacances scolaires, une période propice à la visite des nombreux musées de la métropole toulousaine. Je rappelle que l'exposition Giacometti est en cours au musée des abattoirs, que Lune Explorer, ce dispositif qui permet de vivre un décollage vers la Lune et un alunissage comme si l'on y était, a été inauguré il y a quelques semaines à la Cité de l'Espace. Et puis au Muséum d'Histoire Naturelle, l'exposition « Sex Appeal, la scandaleuse vie de la nature » est également toujours d'actualité. Elle est consacrée à la sexualité des plantes et des animaux. Évidemment, son titre intrigue et l'on peut se demander ce que peut avoir de scandaleux la reproduction, ou plutôt les modes de reproduction dans la faune et la flore. Pour répondre à cette question et plus largement si vous voulez en savoir plus sur cette exposition, je vous invite à écouter attentivement l'émission qui va suivre et qui lui est entièrement consacrée. Et qui mieux que celui qui est en charge de l'exposition « Sex Appeal, la scandaleuse vie de la nature » pouvait nous la présenter aujourd'hui, Ali Abkari est l'invité de ce numéro. Il est chef de projet au Muséum de Toulouse. Bonjour et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer sur notre antenne.
Merci et merci à vous de m'avoir invité.
À ce propos, cette fonction de chef de projet chargé de l'exposition, elle consiste en quoi précisément dans la conception et l'organisation d'un tel événement ?
Alors j'ai un travail de muséographe et la muséographie, qu'est-ce que c'est tout simplement ? Une exposition, on peut la comparer à un film. C'est très ressemblant. Notre travail avant tout, c'est d'écrire un scénario de film. Notre but, c'est de raconter une histoire et on va penser, imaginer chaque scène, chaque plan, la manière dont les personnages vont s'intégrer, communiquer entre eux, donc avec ces objets, ces multimédias aussi très ludiques, ces photographies, la lumière, le son également, et surtout la manière dont on va transmettre le message. On pense à chaque message, à la manière dont on va le connecter avec le public. Et mon rôle aussi, c'est d'être le chef d'orchestre de tout ça, de coordonner toutes les personnes qui travaillent avec nous, parce que c'est aussi un travail collégial. Nous sommes au total, du début à la fin, plus d'une centaine de personnes à participer. C'est assez énorme. Et une exposition, c'est aussi 2 ans de travail minimum. Une première année où nous allons vraiment... C'est cette phase de scénarisation. On va penser, imaginer chacun des espaces de exposition, notamment avec les graphistes, le scénographe, les éclairagistes, les chargés de collection, les designers multimédia. Et la deuxième année, c'est tout simplement la matérialisation de ce qui a été réfléchi et pensé durant plusieurs mois.
Donc votre rôle aussi, c'est de constituer une équipe, si l'on peut dire, celle qui va organiser l'événement, le concevoir de A à Z, un comité scientifique aussi, donc peut-être s'entourer d'experts, chercher des experts du sujet que l'on traite. Et tout ça nécessite aussi beaucoup de temps avant de trouver les bonnes personnes. Le comité scientifique, je suppose que vous y êtes vous-même, bien sûr, mais il y a d'autres personnes.
Alors le comité scientifique, oui, tout à fait, on le forme, on s'interroge sur les personnes les plus adaptées au discours scientifique de l'exposition. Ils sont là pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous mettre en avant, par exemple, les dernières découvertes scientifiques et aussi les messages incontournables et éventuellement aussi les messages à éviter, tous les petits dangers. Nous avons dans l'exposition aujourd'hui 7 membres dans le comité avec une belle parité. Également. Et ce comité scientifique, évidemment, on est conseillé, on cherche à le former et ça prend beaucoup de temps.
Plus largement, comment et par qui sont déterminés les thèmes des expositions annuelles du muséum d'une année sur l'autre ? Est-ce parce qu'un thème est porteur par rapport à l'actualité, aux préoccupations et aux intérêts du public aussi ? Ou est-ce parce qu'il n'a jamais été traité par son originalité, ce qui est d'ailleurs peut-être le cas de l'exposition actuelle ?
Oui, vous l'avez très bien souligné. Notre travail de muséographe aussi, c'est d'imaginer, de penser quels sont les sujets d'exposition qui n'ont jamais été abordés, qui peuvent être innovants, mais aussi en lien avec l'actualité. pour Sexapil, ça a été une proposition de ma part, mais évidemment, il faut que la direction valide ce projet. Et ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle un comité éditorial où nous réfléchissons, nous planifions les prochaines expositions durant les prochaines années à venir. Et la direction, évidemment, peut être aussi force de proposition.
Oui, alors ça peut être aussi sans doute parce que vous avez des pièces dans les réserves du muséum dont vous vous dites, tiens, on n'a jamais utilisé ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les pièces en question ?
Évidemment, notre objectif avant tout est de valoriser notre patrimoine scientifique, valoriser ces immenses collections que nous avons au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. La grande majorité sont dans les réserves, donc c'est aussi l'occasion de les mettre en lumière, de les scénariser. Avant même de présenter un objet, il faut réfléchir à la manière dont il va s'intégrer dans cette histoire.
Ce sujet, ce thème de la reproduction dans la nature, que ce soit celle des plantes ou des animaux, est-ce qu'il avait déjà été traité dans le cadre d'une exposition de cette envergure ?
Non, justement, c'est vraiment une première en France. Et la particularité de cette exposition, c'est qu'on aborde à la fois la sexualité des plantes et à la fois la sexualité animale.
Alors, on reviendra sur ce mot sexualité. Est-ce qu'il est vraiment adapté s'agissant des plantes ? Vous me répondrez plus tard. On ne va pas anticiper. Je pense que toutes les explications que vous venez de donner auront clarifié les choses pour nos auditeurs. Il était important de le faire en préambule. Une question que l'on peut se poser. Est-ce que la reproduction des plantes, la sexualité des animaux sont vraiment très peu ou tout du moins mal connues du grand public ? Est-ce qu'il y a des études là-dessus qui montreraient que, en fait, même si c'est enseigné à l'école, au collège, au lycée, je ne sais plus à quel moment, finalement c'est assez mal connu.
C'est très mal connu. Autant la sexualité des animaux, on arrive à l'admettre, elle est ancrée dans l'imaginaire collectif. Puis nous avons aussi des animaux domestiques qui nous aident un peu à imaginer ce qui se passe concrètement avec leurs organes sexuels. En revanche, chez les plantes, c'est un mystère total. Dire à un inconnu dans la rue que ce figuier est un mâle ou une femelle, Il va regarder bouche bée, c'est un message qui est difficilement acceptable. Et surtout, cette négation de la sexualité des plantes, elle est ancrée dans nos esprits, mais elle a été ancrée aussi dans l'histoire de la science. Car la sexualité des plantes a été découverte très tard, à partir du XVIIe siècle. La sexualité, le terme en lui-même est très important aussi. Parce que...
Alors voilà, est-ce qu'il est vraiment adapté lorsqu'on parle de plantes pour les animaux ? On peut l'admettre. Est-ce qu'il est adapté s'agissant des plantes ? On a souvent tendance à parler de reproduction ou de mode de reproduction.
Alors oui, l'acte de reproduction est un moment très précis où il y a la rencontre des gamètes. La sexualité est beaucoup plus large. Évidemment, elle prend tout son sens avec les animaux parce qu'elle prend en compte tous les jeux de séduction, mais également le plaisir solitaire, la masturbation et des pratiques sexuelles très diversifiées. Évidemment, chez les plantes, c'est plus restreint. Néanmoins, on a ces stratégies entre les pollinisateurs et les plantes qui s'apparentent à des jeux de séduction. Donc le terme sexualité est beaucoup plus juste, je dirais, et plus poétique aussi dans un sens.
Est-ce qu'il était important aussi de mieux faire connaître la sexualité des plantes et des animaux, au-delà d'un aspect qui peut être insolite ou amusant, pour comprendre pourquoi certaines espèces sont en danger aujourd'hui, éventuellement parce que leur type ou leurs zones de reproduction sont menacées?
Évidemment. La sexualité des plantes, la très grande majorité des fleurs surtout, sont hermaphrodites. Elles possèdent les deux sexes au sein d'une même fleur. Donc, quand vous offrez un bouquet de fleurs, vous offrez des organes sexuels, par exemple.
Il y a des gens qui vont découvrir ça.
C'est un cadeau qui est assez cocasse. Mais surtout, la sexualité des plantes et surtout des fleurs, elle dépend majoritairement des pollinisateurs, que ce soit des insectes, des rongeurs, mais également des chauves-souris. Donc il n'y a pas que l'abeille dans l'histoire. Et malheureusement, certaines fleurs, certains pollinisateurs ont eu une adaptation tellement étroite au cours de l'évolution qu'elles sont intimement liées. Et lorsque l'une disparaît, l'autre est fortement en danger. Et elle peut disparaître à son tour aussi.
Est-ce que la sexualité humaine est abordée lors de l'exposition ? Ou est-ce qu'elle est complètement hors-jeu ?
Non, elle est complètement hors-jeu. L'Homo sapiens n'est pas présente dans l'exposition comme un exemple, comme une pièce. En revanche, on l'admet dès le début de l'exposition et on le comprend très vite. Nous sommes des animaux parmi d'autres. Et surtout, ce qu'on présente dans l'exposition, c'est que l'humain, l'Homo sapiens, n'a rien inventé en termes de sexualité. Et on retrouve des similitudes dans le règne animal qui montre une nouvelle fois que nous sommes des animaux. Et il faut sortir de cette vision anthropocentrée où l'humain est toujours mis à part. Naturellement, le visiteur Homo sapiens va se comparer à ce qu'on
va
lui
va avoir
présenter.
Un point de vue, effectivement, qui est celui de l'humain. Même si il faut prévenir ce risque, je ne sais pas si c'est un risque,
oui.
En tout cas, c'est une vision biaisée forcément des choses. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette exposition? Quels en sont les sous-thèmes principaux? Alors, j'ai vu qu'il y avait une phrase qui résume un peu hein, ce que vous avez voulu faire. Exposer sans tabou la vie intime des plantes et des animaux dans toute sa poésie, sa fantaisie, son ingéniosité, mais aussi dans toute sa crudité, voire sa violence. Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour chacun de ces adjectifs poétiques, fantaisistes, ingénieux, crus ou violents?
Oui, alors poétique, alors là c'est un choix tout à fait personnel. La grue du Japon. La grue du Japon, elle est gracieuse, elle est magnifique.
Bon, déjà, l'animal est magnifique.
L'animal est magnifique. Il y a un jeu de séduction synchronisé, une danse entre le mâle et la femelle. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, cette danse, elle est très gracieuse, très aérée, tel un ballet. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la femelle danse avec le mâle. Nous avons toujours en tête que c'est le mâle qui va faire le premier pas.
La parade nuptiale.
Voilà, qui va danser, qui va tout faire. Et que la femelle, elle est statique, elle est là, elle regarde,
elle
observe.
Elle est séduite ou pas.
Voilà. C'est totalement faux. La femelle, elle est pas immobile, elle est pas inerte. On a toujours cette idée, c'est très sexiste, en fait, comme image. Donc, c'est aussi un exemple intéressant pour casser...
Il y a une notion de ballet, un peu. Hein.
Voilà, il y a une notion de ballet, il y a cette danse synchronisée. Le manchot au papeau va offrir des cailloux à la femelle. Moi, je trouve ça... Voilà, pas besoin d'une belle pierre précieuse, un simple caillou suffira. Ingénieuse, bah, du côté des plantes, nous avons l'Ophrys apifera, une orchidée, qui, pour attirer une abeille mâle, elle va imiter les motifs et la forme de l'abeille femelle et même son odeur.
Oui.
Donc c'est très ingénieux, c'est une tromperie totale. Et en termes de violence, alors évidemment la violence c'est le regard que nous portons sur la nature. La menthe religieuse c'est l'exemple
oui, évidemment.
Oui,
c'est l'exemple type évidemment qui vient tout de suite à l'esprit.
Type, mais nous avons aussi par exemple le diable de Tasmanie qui est assez unique. Alors lui il va littéralement mordre et griffer la femelle pour...
Ah oui, là, c'est sadomaso, là.
Voilà, c'est très brut, c'est très violent. Et surtout, malheureusement, chez les diables de Tasmanie, ils ont une maladie sexuellement transmissible, un cancer. C'est le seul cas de cancer sexuellement transmissible qui se transmet malheureusement durant l'acte de reproduction et qui va attaquer leur corps vocal, leur système digestif, etc.
Donc la pérennité de cette espèce passe, entre guillemets, par la maladie, si je comprends bien.
Alors là, oui, malheureusement, beaucoup de diables de Tasmanie sont contaminés. Nous avons aussi, comme exemple de violence, le scarabée bruche. Le scarabée bruche, il possède un pénis épineux, très très épineux, c'est assez impressionnant. Vous avez une reconstitution de son pénis dans l'exposition, et ce pénis va littéralement déchiqueter, si je puis dire, la paroi vaginale de la femelle pour l'empêcher de se reproduire avec d'autres mâles.
Oula, oui, et, donc il est exclusif, mais
voilà,
exclusif par la violence.
Il veut être exclusif, mais évidemment, il y a une adaptation, et la femelle va avoir une paroi vaginale plus épaisse aussi pour se défendre face à ce pénis épineux.
Alors, fantaisiste, qu'est-ce qu'il y a comme mode de reproduction fantaisiste?
Alors, il y en a un qui est assez fantaisiste, je trouve, dans sa manière de faire et dans ses motifs aussi, c'est l'araignée Pan. L'araignée Pan, nous avons, il danse, il va danser, il a un abdomen qui va surélever, déployer, et un masque coloré, presque un masque vénitien, apparaît avec ses couleurs incroyables. Et surtout, l'araignée Pan, il est minuscule, il mesure 0,5 cm. Il est endémique d'Australie. Et il va danser en levant ses deux pattes. Il y a une danse endiablée qui se forme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on montre une nouvelle fois que la danse n'est pas exclusive aux oiseaux.
Alors, il y a une question que je vais poser. Et là, c'est forcément d'un point de vue humain. Est-ce qu'on peut parler d'érotisme, voire de pornographie dans la sexualité des plantes, peut-être plus des animaux, au sens où il y aurait aussi un côté exhibitionniste? Ou est-ce qu'en général, les animaux se cachent plutôt parce qu'il y a le risque, on se met en danger vis-à-vis des prédateurs, évidemment?
Alors c'est vrai que le terme d'érotisme et de pornographie est très...
Anthropocentré pour le coup.
Très anthropocentré, oui, évidemment, là on est vraiment sur l'humain. En revanche, évidemment, la sexualité, la reproduction est très risquée. Lorsque nous allons chanter, danser, pour séduire, on se met à vue.
Et, on se fait repérer.
On se fait repérer par les prédateurs et même durant l'acte de reproduction aussi. Et bien après, parce que c'est très fatigant, c'est très coûteux en énergie. Donc pour se reproduire, évidemment, il faut être suffisamment intéressant comme partenaire et il faut pouvoir survivre après cet acte qui nous met en danger.
Bah oui, évidemment, parce qu'en général, on est plutôt concentré sur ce qu'on fait, donc la vigilance baisse, et donc par rapport aux prédateurs, on se met en danger. Est-ce qu'il y a des modes de... Alors on sait qu'il y en a, des modes de reproduction qui se terminent systématiquement par la mort de nombre de spécimens. Alors, il y a le mâle de la menthe religieuse, ça c'est systématique, il est systématiquement mangée par la femelle.
Pas systématiquement.
Pas systématiquement.
Pas systématiquement. Évidemment, elle va couper la tête du mâle parce que c'est une ressource nutritive intéressante. Mais surtout, lorsqu'elle va déchiqueter son partenaire, l'acte de reproduction est plus long. Donc c'est très intéressant pour elle parce que ça augmente encore plus les chances de réussite de la fécondation. Il y a d'autres exemples également. Il y a un marsupial. Alors je n'ai plus le nom de l'espèce en particulier, mais celui-ci est assez unique. Pendant une période de sa vie, il va enchaîner... C'est un véritable marathon des rapports sexuels et il en meurt ensuite.
Il meurt de fatigue en fait.
Voilà.
Il y a aussi le cas du saumon. Alors là, c'est aussi bien les mâles que les femelles. Beaucoup de spécimens vont mourir. Alors je crois que ce n'est pas toutes les espèces de saumon.
Non.
C'est surtout le saumon pacifique, je crois.
Exactement.
Où là, la plupart meurent après la reproduction.
Oui, 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 oui.
Ce qui n'empêche pas la pérennité de l'espèce. D'où la nécessité que la reproduction réussisse, évidemment.
Évidemment, il faut trouver un certain équilibre, sinon l'espèce va disparaître.
Alors j'en viens vraiment à des côtés très pratiques. Quel parcours est proposé aux visiteurs et quelles pièces peut-on voir? Alors je pense, moi, comme ça, à des animaux naturalisés, à des tableaux, des dessins, des photographies, des vidéos sans doute, mais il y a peut-être d'autres choses.
Oui, alors l'exposition, elle est divisée en trois parties. Nous avons le prologue qui est important. Le prologue, c'est là où on va définir ce que c'est la sexualité, son origine, pourquoi et comment la sexualité est apparue, et le message important de cette exposition qui est que la sexualité est le moteur de la biodiversité. Nous avons ensuite cette place importante, cet espace semblable à un jardin spiralé pour la sexualité des plantes, et ensuite la sexualité bestiale pour les animaux. Et la particularité de cette exposition, c'est qu'évidemment, nous avons toujours ces pièces phares, ces taxidermies qu'on retrouve et qu'on a l'habitude de croiser au Muséum d'Histoire Naturelle. Nous avons aussi des maquettes réalistes de plantes, des odeurs, des multimédia où vous allez devoir jouer de la musique, danser, mais également des œuvres d'art. Pour la partie sur les plantes, on a tout un discours sur la symbolique florale liée à la sexualité et aussi des manuscrits anciens qui sont des témoins historiques et scientifiques de la sexualité des plantes.
Est-ce qu'il y a aussi des sons, des cris, puisque vous parliez du chant par exemple, hein, certains oiseaux attirent la femelle en chantant. Bon, chez nous, il y a un truc typique, c'est le faisan par exemple. Est-ce qu'on a ça aussi?
Oui, vous avez des ensembles de sons, notamment tous les sons des brames des cervidés, cette grande famille. Alors,
le brame, effectivement, vous avez raison.
Nous avons toujours en tête le brame du cerf élaf, celui que nous pouvons croiser, du moins en France.
Et entendre,
mais il y a aussi le brame du cerf japonais, du cerf corse. Et voilà, il y a toute une grande diversité, mais vous allez aussi entendre des sons, des rugissements de lions, de primates, d'insectes, d'amphibiens, et aussi des sons d'orgasme et de copulation.
Alors, pour les parents qui nous écoutent, qui ont des enfants jeunes, à partir de quel âge on peut visiter cette exposition? Comme ça, vu le sujet, on peut se dire, oula, il ne faut peut-être pas y emmener des enfants trop jeunes, sans parler de l'aspect moral, il y a l'aspect aussi, qu'est-ce qu'ils vont y comprendre? En fait, on peut y aller assez tôt, finalement.
Oui, évidemment, l'exposition, elle est accessible au public familial. Les enfants des 7-8 ans, ils peuvent aller dans cette exposition, passer un agréable moment, partager une expérience avec leurs amis, leur famille, apprendre des super anecdotes, aussi sur la sexualité des plantes et des animaux. Évidemment, nous avons une petite zone très visible scénographiquement qui s'apparente à un sex shop. C'est la zone classée X avec cette peinture rouge, ce néon, où nous avons des sexes en volume, des scènes d'accouplement où nous allons aussi aborder le plaisir sexuel et la masturbation. Mais cette zone, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de la contourner.
La zapper. Quelle est la pièce la plus insolite qu'on peut voir à cette exposition, selon vous?
Alors, il y a une pièce insolite. C'est pas la plus impressionnante, mais elle est insolite parce qu'elle est dans nos collections. C'est une chauve-souris en érection.
Naturalisée en érection.
Naturalisée en érection. Il est rare de voir les organes sexuels sur les taxidermies. Ils sont souvent retirés. Vous avez ni le pénis, ni les testicules. En revanche, cette chauve-souris, son pénis est bien visible et il est surtout en érection.
Vous annoncez que l'exposition démontre que la sexualité et la diversité du vivant sont intimement liées. De quelle façon sont-elles?
Alors, elles le sont parce que la sexualité, elle participe en deux étapes. Il y a tous les jeux de séduction et pour ça, il faut qu'il y ait une diversité de caractères, une diversité de méthodes, une diversité de formes, de couleurs qui se manifestent aussi à la fois génétiquement et phénotypement parce qu'elles sont liées aussi aux conditions environnementales. Et surtout, grâce à la sexualité, nous avons ce brassage génétique. Et ce brassage génétique va participer une nouvelle fois au moteur de la diversité et donc à la biodiversité en règle générale. Et tout simplement, sans sexe, pas de vie. Voilà. Si je devais résumer ça très rapidement.
Alors à ce titre, est-ce qu'on peut dire que l'exposition est éclairante d'une certaine manière sur la sexualité humaine, même si celle-ci n'est pas abordée dans l'exposition?
Alors éclairante, je ne sais pas, mais en tout cas, elle va... Elle va peut-être poser des questions, soulever des questionnements sur des possibles similitudes entre l'humain et l'animal. Mais en tout cas, ce qu'elle va apporter, c'est qu'elle va nous éclairer aussi sur la place que nous accordons à l'humain dans ce règne. Il s'agit aussi surtout de quitter cette vision anthropocentriste et d'admettre fermement que nous sommes des animaux parmi d'autres. Ce que nous abordons aussi dans l'exposition, notamment, c'est de montrer que tout simplement la différence est le moteur de la biodiversité. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de morale chez les animaux. On montre aussi la présence de l'homosexualité animale, des sexualités entre deux individus de même sexe, mais qui ne les empêche pas évidemment d'être avec des femelles le reste de leur vie. Donc voilà, on présente cette diversité de sexualité et à chacun de s'interroger sur le sujet.
Évidemment, il n'y a pas de jugement dans tout ce qui est présenté, ce ne sont que des constats finalement. Comment vous espérez que le visiteur va ressortir de l'exposition ? Le plus intéressant, c'est qu'il ressorte aussi avec la capacité et la volonté de mieux observer la nature à la saison des amours ou de la reproduction pour mieux protéger les espèces qui sont en état de fragilité à ce moment-là. Je pense aux oiseaux, si vous avez un chat chez vous, bah, il faut peut-être faire attention à ce qu'il fait lorsqu'il va dans les arbres ou aussi bah, en faisant attention lorsqu'on tond la pelouse. On sait que de plus en plus maintenant on le demande aux gens et à certains moments les insectes sont en pleine période de reproduction.
Exactement, je vous remercie parce que c'est tout à fait ça. L'intimité du vivant questionne aussi sur les émotions. Est-ce que les animaux sont sensibles ? On parle du plaisir animal dans l'exposition, mais ça soulève des questions également bah, sur la jalousie, sur la tristesse, sur le deuil, sur l'amour. Est-ce que les animaux sont capables d'être amoureux ? Est-ce que nous avons une donnée scientifique pour le prouver ? Mais du moins, j'espère qu'avec cette exposition, le public aura une nouvelle vision plus sensible des animaux et qui seront peut-être plus sensibles aussi à leur protection.
Eh bien, on va terminer là-dessus. C'est une excellente chute. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Ali Abkari. Et merci de nous avoir présenté la très intrigante exposition Sexapile, la scandaleuse vie de la nature. Elle se poursuit jusqu'au 7 juillet 2024. Pour connaître les tarifs, les jours et les horaires d'ouverture du muséum et donc de l'exposition, je vous invite à consulter son site web www.museum.toulouse-métropole.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.